Vous écoutez
RMC.
Bon, je voulais faire un chabit. Un chabit. Je voulais faire le chabit time. Qui réactive ce polo? Paul Bexio, notre réalisateur. Bon, on est ensemble. Drôle de dame sur RMC. Il est 21h34 avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Armel et Yoann Crochet. C'est la mi-temps à Dunkerque. Mon cher Gibo, face à Auxerre.
Exactement, sur le score de 1-0 pour les Dunkerquois. Deux occasions pour les nordistes. Un but à la 20e de Yacine et puis un poteau pour Youssouf. Alors que la domination était nette et sans bavure des joueurs de Christophe Pélissier. Des occasions assez incroyables et pour l'instant, ça ne paye pas comme au match aller. Eh bien, Dunkerque avait fait le hold-up à la Baie des Champs. Pour l'instant, ça en prend la tournure. Il reste 5 minutes à jouer ici à Marcel Tribu, 1-0 pour les nordistes.
Avant de parler de l'Inter, je donne rendez-vous dans un prochain Génération After Drôle de Dame pour évoquer une petite révolution en Angleterre que Julien évoquera bien sûr avec une limitation des dépenses qui a été votée des clubs anglais dès la saison 2025. C'est un peu obscur pour l'instant, Julien, c'est vrai que c'est complexe à expliquer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura plus de dépenses illimitées des clubs anglais.
Ouais, c'est ça. Ce sera indexé sur les droits télé des clubs qui gagneront le moins d'argent. Aujourd'hui, le vote c'était pour que la Première Ligue puisse présenter son projet au club au mois de juin lors de l'assemblée générale. Donc, il y aura un nouveau vote au mois de juin. Donc, c'est possible que ça passe pas. On sait aujourd'hui, par exemple, c'est assez marrant en soi que Manchester United, Aston Villa, Manchester City ont voté non, ont voté contre la limitation des dépenses, et que Chelsea s'est abstenu.
Oui, c'est ça.
Dans le vote. Les 16 autres clubs, donc tous les autres ont voté oui. Sauf ceux que je viens de nommer.
Voilà, les clubs disputant les compétitions européennes seront plus limités que ceux qui ne sont pas qualifiés. Donc, il y a une volonté de rééquilibrage, peut-être en première ligue. C'est ça, ce serait intéressant. Il faudra qu'on prenne le temps de l'expliquer. Ça peut être une révolution pour le football européen également. Parlons d'Italie, car on a un champion en Italie, on a un champion en Allemagne, c'est le Bayer Leverkusen. On a un champion en Espagne, c'est pas encore mathématique, mon cher Fredo, pour le Real.
Non, mais c'est.
Bon, voilà, c'est acquis.
Là, c'est 4. Ça fait 1 pour l'instant, c'est 13 points d'avance sur le Barça.
Donc. Tout simplement. Et donc, nous avons le 20e Scudetto qui n'est plus une surprise pour l'Inter. 20, ça pèse énormément, bien sûr, dans l'histoire du football italien. Comment tu qualifierais ce titre pour l'Inter par rapport à celui de 2021, mon cher Johan?
Complètement mérité. Alors, on revient sur la notion de mérite, mais alors, je vais dire extrêmement impressionnant.
Plus encore que 2021.
Ouais, nettement plus parce que le jeu est. Le jeu est d'une meilleure qualité que sous Conte. Vous savez toutes les limites que je disais d'Antonio Conte, notamment sur le fait qu'en Coupe d'Europe, si ça ne passe jamais, c'est qu'il y a aussi une raison à travers son approche du football. Là, moi, j'ai tout aimé de la saison de l'Inter. De toute façon, on en parle très régulièrement dans l'after, même si sur le chat YouTube, nous avons Angelo qui trouve qu'on en écoute, qu'on n'en parle jamais assez ou qu'on n'en parle pas du tout, avec qui je discute sur le chat actuellement. Mais bon, en étant supporter de l'Inter, il voudrait qu'on parle de l'Inter toutes les semaines, ça se comprend. C'est tout a bien fonctionné du recrutement cet été qui était très intéressant parce que les profils ont été extrêmement bien ciblés. Quand il y a un mois et demi, je faisais l'analyse du jeu de l'Inter et d'Inzaghi et notamment son approche très moderne dans l'interprétation de certains rôles, notamment les défenseurs centraux qui avancent balle au pied, qui créent des situations dans le jeu, dans l'élaboration du jeu, dans la construction du jeu de l'Inter, et notamment avoir su identifier que Bastoni était un point fort sur ce côté-là, et notamment son jeu long aussi pour renverser le jeu, enfin beaucoup de choses, des triangles sur le côté avec Di Marco, etc. Et d'avoir réussi à trouver que à droite, il fallait aussi un pendant, et que à droite, ils ont pris Benjamin Pavard, qui est évidemment très à l'aise aussi ballon au pied, qui a sans doute été sa meilleure qualité, plus que son aspect purement défensif. Enfin, je sais pas comment Polo peut évoquer son passage au Bayern, mais moi, j'ai toujours aimé Benjamin Pavard, ballon au pied. Je trouve qu'il a des aptitudes qui me plaisent beaucoup. La reconnaissance des espaces, la compréhension des situations, à qui donner le ballon, où trouver les relais, où prendre l'espace, comment combiner. Je trouve qu'il est vraiment très, très intéressant.
La qualité de contrôle et de passe également.
Exactement, même de jeu long aussi. Donc, je trouve que le recrutement avait été très, très bien ciblé. Donc les dirigeants ont fait un très bon travail, notamment l'administrateur délégué de la section sport, BP Marotta, qui est figure emblématique du championnat d'Italie, qui était avant à la Juve et avant encore à la Sampdoria et qui est maintenant à l'Inter, à Ausilio qui est le directeur sportif. Donc c'est vraiment ces deux hommes-là plus la cellule de recrutement qui ont bien travaillé sur ce volet-là. Il y a aussi évidemment c'est marrant, il y a un match de la GIA ce soir et vous savez que j'aime beaucoup ce club et j'ai dans mon podcast, j'ai fait un podcast avec Christophe Pélissier il y a un mois je crois, un truc comme ça, Et lui, il est un peu spécialiste des montées, Christophe Pélissier. Il a fait plein de montées dans tous les clubs dans lesquels il est passé, dans plein de divisions. Et dans les secrets, enfin pas vraiment les secrets, mais dans les choses qu'il a pointées sur la réussite d'une montée et de l'obtention d'un titre ou d'un événement important, le premier truc qui lui vient en tête, c'est la cohérence entre dirigeant et entraîneur, la cohérence sur et l'entente sur la définition d'un projet commun. Et je trouve qu'à l'Inter, ça a été parfaitement fait. Je trouve que le soutien à Inzaghi a été mis en avant là où il le fallait la semaine dernière, où c'était un petit peu chaud, où il était très critiqué. Ils ont été très bons là-dessus, les dirigeants. Quand il a fallu amener des joueurs pour ce que voulait Inzaghi, ils l'ont fait. Quand il a fallu titiller un peu les joueurs, les dirigeants l'ont fait. Simone Inzaghi l'a fait. Beaucoup plus d'exigences que la saison passée. Le fait que les trous d'air, on les a pas connus cette saison. Sauf, malheureusement, le match à Madrid qui était vraiment mauvais, mais Inzaghi a d'ailleurs pas été très bon non plus, je trouve, dans les choix. Mais il n'y a vraiment pas eu de trou d'air cette saison, et cette exigence au quotidien que les joueurs ont su répercuter semaine après semaine, cette exigence qu'ils ont mis, ces leaders qui ont vraiment pris cette place de leader, les Çalhanoğlu, les Barella, le nom va me revenir, Lautaro, le capitaine évidemment, qui ont eu vraiment un rôle d'exemple aussi pour les joueurs qui sont arrivés, qui ont tout de suite compris là où ils mettaient les pieds, l'exigence que devait avoir l'Inter, le statut de favori qu'ils avaient, clairement, parce que même si c'était pas la plus grosse masse salariale d'Italie, c'est la deuxième, mais en termes de qualité d'effectif, c'était les meilleurs. Et puis Simone Inzaghi qui a su aussi un petit peu évoluer, qui a fait évoluer son jeu, qui est devenu plus moderne, qui a fait évoluer un petit peu sa communication, même si, ça pourrait être encore un petit peu mieux de ce côté-là. Donc vraiment, moi, des joueurs qui mettent de côté leur ego sur toute une saison, quand on est à l'Inter, c'est pas toujours évident. On l'a vu la semaine dernière. Quand les dirigeants travaillent bien, quand l'entraîneur travaille bien, quand l'entraîneur a envie de progresser, qu'il fait progresser les joueurs, quand il a envie de se moderniser, que le jeu proposé est de qualité, et qu'en plus, derrière, il y a plein de répercussions positives sur le volet économique, parce que les résultats amènent des bons bilans financiers, enfin des meilleurs bilans financiers, qu'en plus, ils vont aller dans cette fameuse Coupe du Monde des clubs qui va ramener de l'argent.
C'est la question qu'on nous pose sur le chat, mon cher Yohan. Et maintenant, est-ce que l'Inter peut créer une série comme la Juve l'a fait longtemps en Serie A, peut être encore plus ambitieuse dans Ligue des Champions? Bon, il y a eu une finale la saison dernière. Est-ce que ça peut devenir un mastodonte européen? Voilà, simplement.
Alors, bon, on en avait parlé un peu il y a un mois et demi à peu près, quand on a fait ce débat-là. Moi, je pense que oui. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, dans la Gazzetta, l'édito était de Sacchi. Et Sacchi dit maintenant, voilà ce qu'il faut pour ouvrir un cycle victorieux à l'Inter. Et notamment, il y avait dans cet édito le focus très important sur savoir qui reste dans le projet, dans l'effectif actuel.
Alors.
Et à qui il faut dire un petit peu adieu, parce que t'estimes que il a gagné, il sera peut-être un peu suffisant les années d'après. Peut-être que il y a des joueurs qui sont ok, ils étaient dans le projet, mais peut-être que tu peux avoir mieux comme type de joueur.
Par exemple. Ouais.
Par exemple, les deux à peu près sûrs et certains de partir sont Klaassen, qui a pas servi à grand chose, et Alexis Sanchez.
Qui est libre et qui partira d'ailleurs.
C'est ça, parce que ils vont prendre Taremi de Porto, et forcément, quand on compare pas simplement l'âge, Alexis Sanchez est un très beau joueur, mais normalement, Taremi est censé t'amener outre un jeu un petit peu différent, mais plus de sûreté dans la qualité des performances au quotidien. Il y a Zielinski qui va arriver aussi au milieu de terrain, donc
ouais,
ils sont déjà. Ouais, qui va arriver au milieu de terrain, donc il y a quand même des joueurs qui de qualité qui vont encore amener un peu plus de densité dans cet effectif-là, qui vont renouveler un petit peu. Ça qui disait, moi j'ai connu ça au Milan. Comment on a fait? On a renouvelé petit à petit l'effectif, parce que il faut pas que les joueurs prennent trop la confiance, qu'ils soient un petit peu suffisants, etc. Donc c'est ça la prochaine étape. C'est oui, bien sûr que le cycle peut être victorieux, mais ça dépendra surtout beaucoup des joueurs actuels et comment ils se remettront de ce Scudetto-là qui a été fêté de manière incroyable, et c'était génial, 300 000 personnes dans les rues de Milan, c'était fantastique, sur la Piazza Duomo à la fin, à 23h, les fumigènes, les feux d'artifice, c'était génial. Mais surtout, maintenant, les joueurs, ils vont devoir digérer le Scudetto, qui n'est pas toujours simple, parce que je rappelle que 5 dernières saisons en Italie, 5 champions différents.
Tout à fait. Voilà pour le bilan de la saison de l'Inter et la projection également. Avant d'écouter la minute de Fred, tiens, pour préciser que Valence mène désormais 2 buts à 1, mon cher Fred.
Araujo ne fait pas des conneries que face au PSG, puisque là, il vient de commettre un penalty et très bien transformé par Pepe Lu. Et donc, Valence mène 2-1 sur la pelouse du Barça. Vous allez me dire, c'est anecdotique. Non, parce que la deuxième place est en jeu. Et en Espagne, quand on joue la deuxième place, là, pour l'instant, avec cette défaite, le Barça est troisième derrière Gérone. La deuxième place donne droit à aller en Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Et ça rapporte 5 millions d'euros au Barça s'il y va. Donc le Barça a tellement de problèmes d'argent que c'est, ça compte énormément. Déjà que le Barça, tu parlais du Mondial des Clubs, n'ira pas au Mondial des Clubs, mais là il peut pas aller au...
Donc moins 30 millions, moins 5 millions.
Non, mais c'est
on n'en est pas là en tout cas.
Quoi.
Pour l'instant, 2-1, c'est pas encore la mi-temps. C'est parti pour la 4e minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, Polo.
Media luna brillará, la navaja acechará.
Vous reconnaissez cette voix ? Un très bel homme espagnol, Miguel Bosé. Miguel Bosé, chanteur, acteur espagnol très connu. Très beau pédigré quand même. Son papa était Luis Miguel de Minguin, très célèbre torero. Sa maman, Lucia Bosé, actrice italienne. Son parrain, c'était Luchino Visconti. Et le parrain de sa sœur, c'était Pablo Picasso. Vous imaginez la famille. Il a écrit une très belle chanson qu'on écoute sur Sevilla. Sevilla, pourquoi ? Parce qu'hier soir, il y avait le derby espagnol par excellence entre le Betis et le Sevilla. Un partout. Décevant dans le jeu, mais c'est toujours un derby coloré. J'insiste, c'est vraiment le... Quand on aime le foot en Espagne, il faut au moins voir une fois dans sa vie le derby sévillan. Malheureusement pour Pellegrini, et je le dis souvent, mais c'est encore la preuve que c'est sûrement un très bon entraîneur, mais pas pour les grands matchs. Il a disputé 9 matchs contre Séville. Et il n'en a gagné qu'un seul depuis qu'il est à la tête du Betis. Et d'ailleurs, quand il joue contre le Real, le Barça, l'Atlético et donc son grand rival, le Betis, en championnat, 31 matchs, une seule victoire contre les gros. Donc voilà, c'est un vrai blocage psychologique ou technique ou tactique, j'en sais rien, en tout cas de Pellegrini. Et puis c'est un match qui nous rappelle aussi hier qu'il y a un joueur extraordinaire qui a été élu le MVP du match, il s'appelle Isco. Qu'on a vraiment le sentiment à chaque fois qu'il est passé à côté d'une très grande carrière.